RCF.
Rambourg, le siècle des Lumières est une période de nouveauté et de créativité dans l'histoire de la gastronomie française.
Oui, le siècle des Lumières est une période extrêmement importante dans l'évolution de la cuisine en France et de la gastronomie. Le discours devient de plus en plus important. Dans les années 1730-1740, on a tout un débat qui se met en place, notamment à Paris, sur la notion de nouvelle cuisine. Les termes nouvelle cuisine, oui, les termes nouvelle cuisine sont utilisés à l'époque. Le renouvellement culinaire est de plus en plus rapide. Si dans les périodes anciennes, fin Moyen-Âge, Renaissance, il fallait quand même parfois un siècle, deux siècles pour voir des mutations culinaires. Avec le XVIIe siècle et le XVIIIe siècle, le renouvellement est de plus en plus rapide. C'est toute la substance même de la cuisine qui se met en place. L'image même de la cuisine est en train de changer. Ce qui est nouveau, c'est à la fois ce qu'on mange et le discours que l'on tient sur la cuisine. Je dois préciser une chose, hein. Je parle régulièrement de cuisine et de gastronomie, mais le terme gastronomie ne s'imposera qu'un peu plus tard, au début du XIXe siècle. Et il faut dire d'emblée que la gastronomie, c'est le discours sur le boire et le manger. Ce n'est pas forcément la pratique culinaire comme on le comprend aujourd'hui, hein. Donc à l'époque, on a déjà tout un discours. Et alors, il y a un véritable débat, une passion incroyable sur la cuisine à cette époque, au début du XVIIIe siècle. La cuisine est un phénomène de mode à ce moment-là. Tout le monde en parle. On a plein de livres de cuisine qui sont publiés sur cette thématique.
XVIIe, XVIIIe.
Principalement au XVIIIe siècle. Parce que la cuisine est désormais considérée comme un art. Autre phénomène aussi, on a des textes qui nous explique que la cuisine, c'est comme la peinture et la musique. Par exemple, la saveur d'une sauce, les saveurs d'une sauce, si on peut parler au pluriel des saveurs, ressemblent donc aux différentes intonations d'une musique ou aux différentes couleurs qu'un peintre utilise sur un tableau. Parce que dans la classification française, on a ce qu'on appelle les arts majeurs et les arts mineurs. Or, la cuisine a longtemps été classée dans les arts mineurs, les arts mécaniques, le travail manuel, musique et peinture dans les arts majeurs. Or, pour considérer que la cuisine devienne un art, il fallait la comparer aux autres arts majeurs. Alors, c'est vraiment incroyable la passion qu'il y a à cette époque. On parle d'une alchimie culinaire, on parle du cuisinier qui devient un personnage médiatisé, comme aujourd'hui avec la télévision et les magazines.
Peut-être aussi qu'on maîtrise de mieux en mieux les techniques, notamment la cuisson, la conservation, etc.
Exactement, parce qu'apparaît quelque chose qui va contribuer à moderniser la pratique culinaire, c'est ce qu'on appelle le potager, qui va éloigner le cuisinier de l'âtre de la cheminée. Le potager, c'est une structure maçonnée que l'on installe généralement sous une fenêtre pour avoir la lumière, à hauteur d'homme, avec des petites cavités rondes dans lesquelles on met des braises. C'est l'ancêtre, quelque part, de la gazinière du fourneau, sauf que ça fonctionne avec le charbon. C'est important parce que, dès lors, le cuisinier va avoir au-dessus de lui une diversité de cavités plus ou moins larges, donc de chaleurs différentes, qui vont lui permettre de mieux contrôler la cuisson des sauces. Impossible pratiquement de faire une sauce au beurre dans l'âtre de la cheminée. Faire une sauce au beurre sur un potager, oui, c'est possible. Donc on a à la fois une sophistication de plus en plus importante de la cuisine française et en même temps une technicité de plus en plus poussée. C'est une cuisine de plus en plus rationnelle aussi. Les livres de cuisine nous le montrent très très bien. Le travail dans les cuisines est de plus en plus hiérarchisé. Chacun a son geste à faire.
Avec une brigade.
Avec une brigade de cuisine. La brigade de cuisine, elle est là depuis le Moyen-Âge, bien sûr. Ouais. Mais elle devient de plus en plus précise, de plus en plus rationnelle.
Chacun sa tâche.
Chacun sa tâche. Et chacun sa tâche sort, bien sûr, ce qu'on va appeler l'œuvre culinaire, qui se retrouve sur la table dans ce fameux service à la française.
La suite de l'histoire.
Il y a un phénomène aussi, quand on parle du XVIIIe siècle, Patrick Rambourg, c'est l'apparition du restaurant. On a des tas d'idées préconçues sur cette question que vous allez vous empresser de démolir.
Oui, tout à fait. Le restaurant, longtemps, on a dit que c'était la Révolution française qui avait créé le restaurant. On nous explique que les grands chefs, les aristocrates se sont retrouvés dans la rue et donc n'ont pas eu d'autre choix que de créer des établissements à l'adresse d'un public élitiste qui n'est plus issu de l'aristocratie, mais de la haute bourgeoisie. Alors, c'est totalement faux parce que le restaurant. Du moins, les établissements, les premiers établissements que l'on appellera restaurant apparaissent dans les années 1760.
À Paris ?
À Paris. C'est une invention parisienne, le restaurant. Alors, le restaurant, il apparaît dans un contexte quand même de forte concurrence alimentaire et culinaire dans cette capitale qui est déjà au XVIIIe siècle considérée comme la capitale de la gastronomie. Comme je vous l'expliquais déjà, dès le Moyen-Âge, on a des spécialistes du prêt-à-manger dans cette ville, mais pas seulement à Paris, dans toutes les grandes villes a priori, des gens, des professionnels qui font une nourriture prête à être consommée.
C'est spécialiste. Donc pâtissier, boucher, vous le disiez.
Pâtissier, rôtisseur, cuisinier ouailler, charcutier, etc. etc. Traiteurs aussi, les taverniers, les aubergistes, les cabaretiers donnent de la nourriture aussi, comme si on allait dans un restaurant. Cette habitude, elle perdure sur la longue durée. Et au XVIIIe siècle, les Parisiens sont totalement habitués à aller manger à l'extérieur de chez eux et à aller acheter une nourriture prête à consommer. Donc les restaurateurs arrivent dans un environnement déjà où on est habitué à manger hors de chez soi.
Alors qu'est-ce qui fait la différence ?
La différence, il y a un phénomène de mode, encore une fois, qui s'appuie sur cette notion de nouvelle cuisine. Cette nouvelle cuisine s'appuie sur un discours de santé. On nous dit que la nouvelle cuisine est une cuisine de santé.
Saine,
qui s'adresse à un public élitiste. Pourquoi une cuisine de santé ? Une cuisine moins grasse, légère. C'est quand même un discours qu'on va retrouver au XXe siècle encore. Qu'est-ce qu'une cuisine légère au XVIIIe siècle ? C'est une cuisine où on utilise moins de matières grasses que celles qui se faisaient, par exemple, à la fin du XVIIe siècle. Et on a des recettes, par exemple, on nous donne deux sauces, sauce à l'italienne, sauce à l'italienne légère. Quelle est la différence ? On diminue la quantité de beurre. Cette cuisine de santé, cette cuisine légère, on va avoir des petits malins qui vont faire un véritable coup de marketing, c'est clairement ça. Ils ont déjà des établissements qu'on appelle des traiteurs, qui proposaient une cuisine sous forme de traiteur, c'est-à-dire qu'on pouvait manger sur place ou qu'on portait à la maison. Et ils vont reprendre un mot qui existe depuis très longtemps, le mot restaurant, qui veut dire bouillon de santé, qui existe depuis le Moyen-Âge, ce mot, restaurant, restaurare en latin, restaurer le corps humain, c'est-à-dire qu'on donnait un restaurant à quelqu'un qui était malade. C'était un bouillon de viande. Généralement.
Un remontant,
on peut dire ça comme ça. Ils vont ouvrir des établissements qu'ils vont nommer restaurants parce qu'ils s'adressent à un public qui recherche une cuisine de santé. C'est ça les premiers restaurants à l'origine, dès les années 1760, avec un cadre extrêmement sophistiqué, comme les cafés qui apparaissent au XVIIe siècle, comme le Procope, des petites tables individuelles, un service sophistiqué, une vaisselle de porcelaine précieuse, avec l'eau de la Fontaine du Roi, des vins fabuleux qui viennent de Beaune, qui viennent de Bordeaux, etc. Et de la poularde cuite au bouillon, du riz avec la sauce blanche. Bref, une cuisine censée apporter santé, confort au public qui était présent, mais aussi un confort intellectuel, puisqu'on leur proposait aussi de lire des journaux, etc., etc. On proposait aussi des pâtisseries comme le gâteau de Savoie, le gâteau de la Reine. C'était un must de goûter le gâteau de Savoie et le gâteau de la Reine à l'époque. Donc, on a vraiment un environnement extrêmement élitiste qui s'adresse à un public très prisé.
Alors, à ce que je vois, monsieur était un habitué de la maison ?
Un habitué, ça vous pouvez le dire. C'est qu'on mangeait bien ici. Le patron, c'était un chef.
Un chef ? Si on veut.
Comment si on veut ? Et sa cuisine ? Vous avez goûté sa cuisine ? Son bœuf en daube, son stockfish, ses pieds paquets maison ?
Ses pieds paquets.
Ça vous plaît pas les pieds paquets ?
Ah, non, je dis pas ça, mais enfin...
Et sa bouillabaisse. Vous savez ce que c'était, sa bouillabaisse ?
C'était des boîtes. C'était des boîtes.
Des boîtes ? Sa bouillabaisse ? Vous voulez peut-être dire de la conserve ? Attention, monsieur. À ce que vous dites, vous l'insultez.
Suite de l'histoire.
Ça, c'est les années 1760. Diderot, par exemple, nous écrit dans certaines de ses lettres qu'il a été mangé chez le restaurateur. Il explique qu'on y est très bien traité, mais fort chèrement traité. Voilà les premiers restaurants. Et très très vite, ces restaurants vont avoir un succès phénoménal. Tout le monde va en parler.
Le phénomène s'installe.
Et ce restaurant arrive aussi à un moment donné où les corporations se disloque. Parce que pendant très très longtemps, les métiers se sont appuyés sur des corps où on expliquait que voilà, moi je suis cuisinier, donc je fais les pièces rôties, moi je suis charcutier, donc je m'occupe des viandes de porc, etc., etc. Mais le restaurant, il propose une cuisine qui peut aussi bien proposer des viandes rôties, des viandes en ragoût, du poisson, etc. Donc le restaurant devient un établissement qui se positionne au-dessus de tous les corps de métiers.
À Paris, il y en a beaucoup donc à ce moment-là ?
Ça va être très rapide. Jusqu'à la Révolution française, on a des grands restaurants qui s'ouvrent et un lieu mythique à Paris qui est le Palais Royal. Le Palais Royal devient le centre gastronomique de la capitale française avec des grands établissements qui s'installent comme le restaurant de Beauvilliers, le restaurant des Trois Frères Provençaux, le café de Chartres aussi qui va devenir le Grand Véfour plus tard. Et la particularité du restaurant, c'est qu'il propose une carte avec des plats, des boissons avec un prix de chaque côté et le convive choisit et organise son menu. Alors la nouveauté aussi, c'est le cadre de beaux établissements. On peut voir ça encore aujourd'hui avec le Grand Véfour, des restaurants du XVIIIe siècle qu'on a encore aujourd'hui à Paris. Et très très vite, le restaurant va se diffuser dans toute la société. C'est-à-dire que progressivement, on va avoir le restaurant gastronomique, le restaurant qui va s'adresser à la bourgeoisie, le restaurant qui va s'adresser à une population plus modeste. Et c'est surtout au XIXe siècle
que ça explose.
Et on va avoir des restaurants à prix fixe qui vont apparaître et des restaurants à la carte. Alors la différence, c'est que le restaurant à prix fixe s'adresse à une population généralement plus modeste où on propose un menu complet à un prix défini à l'avance avec généralement une entrée, un plat et un dessert. Et c'est un véritable phénomène culturel qui va se diffuser à partir de Paris dans toute la France et après dans le monde entier. Le mot restaurant, on le trouve dans le monde entier. Ça montre bien l'influence que la France a eue dans le domaine culinaire, comme le mot gastronomie.
Des mots français.
Les mots français.
Merci beaucoup Patrick Rambourg. On vous retrouve demain pour le dernier rendez-vous.